Emmanuel Todd, Terreur Graphique, bonjour. Très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la sortie aux éditions Casterman de votre bande dessinée. Il était une fois la famille. Dans la BD, cette terreur qui vient vers vous, Emmanuel, en demandant un peu d'éclairage. Mais dans la réalité, comment est né cet ouvrage ?
Le moteur initial, c'est Najib, qui est éditeur et lui-même auteur de bande dessinée, qui travaille chez Casterman, évidemment, et qui, depuis longtemps, avait envie de faire une mise en scène BD de ma théorie sur les structures familiales et le rapport à l'idéologie. Donc, il cherchait quelqu'un, en fait. C'est vraiment moteur. Et puis, la premier type, j'ai oublié le nom, qui a eu peur. En fait, que comme dans l'histoire de la fin des bronzés, c'est bronzé pour Disky, il s'est dit que je gagnais à pas être connu. Et puis, ensuite, il s'est tourné vers Terreur, qui lui a pas eu peur, comme son nom l'indique, sinon c'est dans l'autre sens, et qui s'est lancé dans le truc, et qui a fait la BD, en fait, qui a fait la mise en scène, les personnages. Avec moi, j'avais fait une vidéo d'explication de la théorie familiale, et donc je suis intervenu dans le livre, mais en instance de contrôle scientifique.
C'est quand même la résultante d'années de recherche, d'analyse et surtout de synthèse, quand même, non ?
Personnellement, je suis un type sérieux. Je veux dire, j'ai fait ma thèse sur les structures familiales à Cambridge. J'étais le plus jeune chercheur du collège, à Trinity, quand même. J'avais 20 ans à l'époque. Donc, j'en ai 73. Donc, moi, j'ai passé 53 ans. J'ai fait un demi-siècle de travail sur les structures familiales. Donc, évidemment, j'ai un certain niveau de compétence. Et le livre, en fait... maintenant que vous posez la question, c'est difficile. Mais en fait, ce livre est une BD... Mais dans cette BD, il y a quand même, je dirais, 95% de travail de terreur, mais quand même un demi-siècle de travail patient de ma part, qui sont condensés d'une façon subtile.
Alors, je vous avoue que à l'UNIF, j'aurais bien aimé avoir quelqu'un comme vous, parce que pour profiter de vos tableaux de synthèse, ça devait être génial quand même. C'est toujours venu chez vous naturellement ?
J'ai toujours eu un esprit comparatiste. C'est-à-dire, même ma thèse à Cambridge, c'était la comparaison de certains des éléments de structure sociale dans des villages d'Artois, de Bretagne, du sud de la Suède ou de Toscane. Et donc, j'ai pas d'esprit de synthèse, j'ai un esprit comparatiste. Je comprends bien les choses en comparant un phénomène dans divers lieux, diverses cultures, etc. Et le livre est construit comme ça, en fait. C'est quatre cultures, cinq cultures comparées. Voilà.
Est-ce qu'on peut parler d'une œuvre de vulgarisation de la sociologie ?
On peut le dire, mais comment dire, de toute façon, moi, par... Alors d'abord, je suis anthropologue et historien. Bon, sociologie, ça, c'est ma femme. Oui, on peut dire ça, évidemment, mais moi, mes livres ont une particularité par rapport à la production générale du secteur, c'est que je me suis toujours efforcé d'écrire avec un maximum de simplicité, et je n'ai jamais eu en tête l'idée que je parlais à des collègues universitaires. Ils me l'ont bien rendu, d'ailleurs, dans le conflit. J'ai toujours parlé, écrit pour des gens intelligents, éduqués, normalement. Et donc, je dirais qu'en certain sens, c'est l'apothéose de cette attitude pour moi, du genre, et peut-être une sorte d'ultime pied de nez à l'université.
Alors, Terreur, vous êtes l'amuseur de service, finalement. Vous détendez un peu l'atmosphère. Qui introduit cet humour et comment l'avez-vous déterminé ?
Je dirais qu'on est venu me chercher pour ça, déjà.
pour votre humour.
Oui, pour rendre les choses un peu plus drôles. Ça s'impose tout seul. On visite des systèmes familiaux, donc la famille, c'est quand même un endroit où on peut bien se marrer, tout en se marrant pas du tout.
Et le style d'humour, vous avez dû le chercher ou vous êtes venu?
Non, c'est le mien. C'est celui que j'utilise à peu près tout le temps. Je suis pas un intellectuel. Je fais tout à l'instinct. Donc
Et tu fais des idées sur les intellectuels?
Oui, sûrement.
Moi, j'ai un mode de travail instinctif aussi.
Putain, je connais Bernard Henri-Lévy.
C'est pas l'intellectuel.
Je le sais.
Alors, pour agrémenter finalement vos propos, vous faites régulièrement référence à la culture populaire. Comment avez-vous sélectionné, notamment en musique, parce que on va de Maxime Le Forestier, de Dutronc et ses Playboy, Stephen Wolf, Nick Tamer, Clash, Barbara, Mourir pour mourir, R. Kelly, c'est énorme. Vous avez, comme vous dites, un vrai jukebox, non ?
Bon, moi, je suis très sensible à la bonne punchline. Je trouve utiliser les chansons en général, et tout ça c'est ma culture, et quand c'est justifié, enfin, je sais pas, quand on cite Maxime Le Forestier, ça a tout à voir avec le sujet. On est quelque part.
Mais c'est là qu'il est pensé instinctive et fine, parce que c'est lui qui introduit Maxime Le Forestier, okay. Être né quelque part. Mais moi j'avais écrit un livre qui s'appelle Destin des immigrés, que j'ai écrit en écoutant cette chanson. Donc on a une base
commune,
culturelle et émotionnelle, en fait, d'une certaine manière. C'est un moment surprenant, l'histoire de Le Forestier, là.
Et au cinéma, Kassovitz et sa haine, Eastwood avec Le Bon, la Butte et le Truand, même Star Wars, c'est aussi votre culture ?
Moi, c'est la mienne, mais...
C'est lui qui l'a mis, hein.
Ouais.
C'est lui, mais ça me va, je peux suivre.
Référence Bédéphile aussi, Spirou et Fantasio, le petit clin d'œil à la fin, Tintin, les Schtroumpfs en communard, ouais. Pas mal ça.
Bah, les bonnets phrygiens, c'est ouais. Très Schtroumpf.
Faut le voir, moi je suis un énorme lecteur des Schtroumpfs, et d'ailleurs mon préféré dans les Schtroumpfs, c'est le Schtroumpfissime, le plus politique des albums des Schtroumpfs, mais j'aurais jamais, je m'étais pas rendu compte que le... Leur chapeau, là, pouvait être interprété comme ça. C'est une révélation de terreur pour moi.
Alors, vous aviez déjà côtoyé, Emmanuel, un peu le milieu de la BD, lors du Fou et du Prolétaire, là, avec Reiser, non, qui pas, faisait la couverture.
Non, c'est pas côtoyé. Mais, alors, d'abord, moi, je suis admirateur. Il y a deux types que je suis beaucoup, c'était Reiser et Gottlieb. Vraiment, on voit des passages comme ça. Et dans Le Fou et le Prolétaire, il y a un passage qui est une mise en boîte de la culture française de l'époque, où j'explique que des gens comme Reiser sont quand même plus importants que certaines sommités du monde intellectuel français. Voilà. Puis quand le livre est passé en livre de poche, j'ai demandé à l'éditeur si on pouvait utiliser cette couverture de Charlie Extraordinaire. Où il y avait, c'était au moment où le PC avait abandonné la dictature du prolétariat, et où il y a ce prolo qui dit « Tant pis, je serai pas dictateur !» Voilà. Et Reiser, que je n'ai jamais rencontré, en fait, malheureusement, c'est l'un des vrais regrets de ma vie, quoi. Il est mort si jeune, avait dit « Oui, oui, pas de problème, et si vous voulez, je vous le redessine ». Ça n'a pas été nécessaire, mais vraiment... Mais pour moi, ne pas avoir rencontré Reiser, c'est l'un des ratages de mon existence.
L'idée de l'interro-surprise, elle vient de qui ?
Toutes les idées...
Parce que finalement, ça permet de faire un beau résumé sur toutes les idées qui viennent d'être exposées.
L'idée, c'est que Nejib, l'éditeur, pensait qu'il était bon de faire un rappel de ce qu'on avait vu dans chaque chapitre. Donc, on reste dans le côté professoral et dans le génie et son disciple... on peut dire, et interro-surprise, ça marche. Quoi.
Ah oui, ça c'est le mieux qu'on puisse dire. Ouais. Et les références au cri de Munch, le paradoxe de Schrödinger, son chat, les jeux vidéo, ça je suppose que c'est
tout est lui. Hein.
Tout est lui, tout vous aussi.
Schrödinger, c'est marrant. Quoi.
Non, mais Schrödinger...
Et Prokofiev aussi.
Prokofiev.
Non, Prokofiev, c'est moi.
Ah.
Mais moi, je suis fasciné par Prokofiev, d'abord parce que j'adore Pierre et le Loup, etc., mais... Prokofiev, c'est la sorte que de comète distribution de la grande culture musicale russe, etc., dévastée par la Révolution. Et Prokofiev...
On se rend compte quand même que Staline n'était pas très sympa avec lui. Hein,
C'est-à-dire qu'il a été utilisé, il est parti, il est revenu. Ouais. Et en partie, quand on regarde les biographies, probablement pour protéger sa famille. Mais l'ultime gag, c'est qu'en fait, il y a un élément de ressemblance physique entre Prokofiev et Poutine. Si on regarde.
C'est vrai.
Toutes ces références, elles vous viennent naturellement
Oui. C'est...
Quoi, la lecture d'un texte d'Emmanuel, vous dites, tiens, ça me fait penser à...
Non, c'est dans l'action de la mise en scène. En fait, je me dis, tiens, là, ça serait marrant de mettre Le Forestier ou de faire une référence à Astérix.
Parce que ça n'arrête pas. On peut
c'est un peu, des fois, c'est un peu mon problème.
Alors,
il a censuré, Emmanuel ?
Non, Nedjib m'a fait sauter pas mal de calembours, je pense, ouais. Parce qu'il a une certaine propension à faire des calembours, comme certaines mitraillettes distribuent des balles. Et donc, voilà. Mais non, moi je regardais, mais non, c'est vrai, j'ai pas le sentiment d'avoir, d'avoir censuré quoi que ce soit. Non, je suis un vrai libéral, en fait.
J'allais dire, pourtant, vous étiez homme de gauche, vous aviez probablement voté Nouveau Front Populaire. Et en même temps, je voulais vous demander quel regard vous portez sur le communisme en 2024.
Alors, sur le communisme en 2024, je porte un regard extrêmement simple. Il n'existe plus. Donc, mais pour le passé, moi, j'étais membre du Parti communiste. Quand même. Donc je vois bien le chapitre sur le stalinisme est quand même d'une très grande cruauté dans le livre.
Il n'y a pas de truc.
Mais on dit souvent le capitalisme, c'est l'art de tirer le meilleur du pire des gens, l'instinct d'acquisition, etc. Et avec l'égoïsme des gens, on fabrique une société super efficace. Pour moi, au stade actuel, le communisme, c'est juste l'inverse. On prend ce qu'il y a de mieux dans l'homme, on met ces hommes ensemble et on crée un milieu de type adorable et naïf où les salauds prennent le pouvoir. C'était ça le PC. Mais moi, personnellement, du Parti communiste, je ne garde humain. Je ne garde que des bons souvenirs. Vous voulez que je vous raconte deux belles anecdotes ?
Allez-y.
Eh bien, d'abord, un type veut adhérer au Parti communiste. Il passe son temps, un sympathisant qui passe son temps à dire des choses contre les Arabes. Secrétaire de cellule, chaudronnier chez Renault à l'époque, Billancourt existait encore, lui dit, écoute, non, tu peux voter pour nous, ça va, mais avec toutes les saloperies que tu dis sur les Arabes, tu n'es pas digne d'appartenir au Parti communiste français. Et par ailleurs, on entend les gens dire, ah, mais Marchais, t'es vachement... Voilà, ça, c'était ça. Et le deuxième truc, encore plus personnel pour moi, c'était, j'avais fait la campagne des législatives de juin 68, qui pour moi était l'année du bac. Donc on se marrait comme des fous, à 3h du matin, on allait coller les affiches, on faisait des courses-poursuites avec les gaullistes, enfin c'était juste hyper drôle, on faisait semblant de se battre, en fait c'était tout un peu amical. Et à un moment donné, le même secrétaire de cellule me dit « Bon, maintenant ça va, ça suffit Emmanuel, tu prépares ton bac ». C'est-à-dire que ce type, cet ouvrier, se mettait en gardien de la culture bourgeoise chez un enfant de bourgeois. Je suis désolé, c'est pour ça que les gens qui maintenant passent leur temps à ne dire que du mal du communiste, vraiment m'exaspèrent. Vraiment, il y avait un truc de... Et ma grand-mère anglaise, qui était communiste, à 70 ans, elle allait couper de la canne à sucre à Cuba, et je peux vous assurer qu'elle était très gentille. Vous voyez ? Donc il y a une réalité humaine du communisme qui a été oubliée, et en fait qui nous manque beaucoup. Vous voyez, le truc du début, quand on dit des saloperies comme ça sur les Arabes, on n'est pas digne d'appartenir au Parti communiste français. Le Parti communiste disparaît, et ensuite, on a le Rassemblement national. Vous ne croyez pas qu'il y a un petit rapport ?
Alors bon, on n'est plus à la guerre froide, mais on serait plutôt à la guerre chaude pour l'instant, avec tout ce qui se passe un peu partout. Est-ce qu'on est dans une fin de cycle ? Parce que je parle au devin, celui qui avait vu la fin de l'Union soviétique en 1976. Oui. Est-ce que pour vous...
Je viens d'écrire un livre, La défaite de l'Occident, qui est en cours de traduction dans 20 langues, toutes sauf l'anglais. Parce que le livre est tellement pertinent et exact qu'il est indigestible par... des estomacs anglo-saxons, et qui, l'Occident va perdre, mais c'est pas la victoire de la Russie, c'est l'autodestruction de l'Occident, un système de valeurs, mais c'est un vaste sujet. Et sur ce vaste sujet, je crois que je peux annoncer en avant-première que nous n'allons pas faire de BD. Si on en fait, ça sera sur autre chose.
Mais voilà, c'était justement la question. Je me demandais si Spirou et Fantasio qu'on voit à la fin n'allaient pas nous emmener vers une nouvelle enquête.
Alors lui, je ne sais pas, mais pour moi, c'était dire des choses, dire « tu pourrais dessiner ça », je ne sais pas dessiner, et le voir apparaître, c'est juste magique. Et donc, moi, j'en recommence, pas sur n'importe quel sujet,
mais sur un bon sujet, quand il veut.
Emmanuel Terreur, un grand merci en tout cas.
Merci.
Et on rappelle donc que votre bouquin est sorti chez Casterman. Merci à vous.
Merci à vous.